Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Lutte contre Ebola en RDC, OMS et gouvernement congolais réaffirment leur engagement à protéger la santé des populations. Pour cela, ils se battent notamment pour stopper rapidement la chaîne de transmission de la maladie. C'est entre autres ce qui ressort de leur communiqué conjoint hier. Dans le Kwilu, on en sait un peu plus sur le naufrage survenu samedi sur la rivière Kwilu près de Bagata. 11 morts, des disparus et 47 rescapés. C'est le bilan provisoire du chavirement de la balnéaire HB Kabuki, selon les autorités locales. Comme invité, souviens Kisimba, directeur provincial du guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Il explique le rôle, l'importance de ce service de l'État créé depuis 2022. Madame, Monsieur, bonjour. Épidémie d'Ebola en Ituri. Le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé réaffirment leur engagement à protéger la santé des populations. Dans un communiqué conjoint hier, les deux parties disent avoir intensifié la surveillance, les analyses de laboratoire et la prise en charge des patients. Objectif, interrompre le plus tôt possible la transmission de la maladie. D'autres précisions avec Martial Kizabiamungu.
Dans ce document, les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiètent de l'évolution rapide de cette maladie avec des cas suspects ou confirmés et des décès signalés dans plusieurs zones de santé de l'Ituri, dont le Nord Kivu et du Sud Kivu. Les gouvernements, avec l'appui de l'OMS et des partenaires, intensifient la surveillance, les analyses des laboratoires et la prise en charge des patients afin d'interrompre la transmission du virus. Toujours dans les mêmes communiqués, l'OMS, aux côtés du système des Nations Unies dans son ensemble et des partenaires de la santé et des humanitaires, s'est dit pleinement engagé à soutenir ses efforts. Ils reconnaissent cependant que parmi les défis persistants figurent la détection précoce et l'isolement des cas, la recherche des contacts, les enterrements sûrs et dignes, les renforcements des mesures de prévention et de contrôle des infections des établissements de santé ainsi que la sensibilisation accrue des communautés. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle, au Congo central, après plus de 2 ans sans accès à l'eau potable, les habitants du village Kinzaou, dans la commune de Matadi, retrouvent enfin le sourire. Grâce à un forage moderne réalisé par le Centre de développement communautaire, la population dispose désormais d'une source d'eau potable. Cet ouvrage d'intérêt communautaire a été inauguré samedi par le bourgmestre de la commune au grand soulagement des habitants. Précision dans ce reportage signé Élise Kavira.
Selon les habitants de ce village situé à la périphérie de Matadi, trouver un simple bidon d'eau relevé d'un véritable parcours du combattant. Roger Nimi, vivant dans ce village depuis plusieurs années, en témoigne.
Nous recevons de l'eau de la Régie des eaux, mais parfois nous pouvons faire 4 mois sans eau. Et quand on reçoit pendant 2 ou 3 jours, c'est réparti encore pour des mois à sec. Mais depuis qu'on a reçu ces forages, en tout cas, l'eau jaillit en abondance.
Pour Mama Suzaki Temoki, épouse du chef du village, voir ce forage est la réalisation des rêves. Elle nous partage sa joie après autant d'années de souffrance.
L'année passée, quand les bourgmestres étaient venus dans notre village, ils nous avaient demandé de quoi nous avions besoin. Nous lui avons fait savoir que notre besoin le plus urgent, c'est l'eau. Il fallait parfois marcher dans la boue, c'était difficile.
Maman Suzanne, communément appelée Maman Chef, n'a pas manqué d'inviter les habitants du village Kinzaou à bien prendre soin de ces nouveaux forages pour le bien de tous.
Mes frères et sœurs de Kinzaou, prenons bien soin de cet ouvrage qui nous est donné. C'est pour nous tous. Si nous en prenons soin, ça va aider même les générations à venir.
Les habitants de Kinzaou village appellent les autorités à rétablir l'électricité dans leur village qui est dans l'obscurité depuis plusieurs mois afin de permettre le fonctionnement continu de ce forage. Matadi, Elisabeth Kavira, Radio Kapi.
Nous sommes dans le Kwilu à présent. Notez cette évolution sur le naufrage qui s'est produit samedi sur la rivière Kwilu près du territoire de Bagata. La balnéaire HB Kabuki a chaviré provoquant la mort de 11 personnes et les 147 rescapés selon les autorités locales. Le député national Gary Sakata, élu de Bagata, indique que plus de 50 passagers sont toujours portés disparus. Des opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent encore. L'embarcation partie du port de Sangui dans le territoire de Massimanimba a sombré dans des circonstances encore indéterminée. Plusieurs survivants évoquent une possible surcharge, une hypothèse qui devrait être confirmée par les enquêtes en cours. Carissa Kata s'exprime à ce sujet au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu Développement.
Au bord de cette baleinière, selon les informations, et le manifeste l'indique bien, il y avait 150 passagers. Et à ce jour, on dénombre qu'il y a 47 rescapés. Il y a 11 morts retrouvés et les autres, dont la cinquantaine, sont introuvables. Cette situation est dramatique et appelle au balisage de rivières Kwilu et Inzia. Mais en attendant, les autorités locales ont appelé au secours, notamment la RVF et l'ONATRA pour accéder à ces lieux en vue de rechercher des éventuelles victimes qui seraient encore sous la baleinière qui s'est totalement renversée. La baleinière appartient à un certain Zungu Edi du village Bualayulu dans les territoires de Mokamo. Et cette baleinière est totalement naufragée et donc irrécupérable, ainsi que toutes les marchandises qui s'y trouvaient.
Notez que sur le terrain, les équipes de secours appuyées par la population locale poursuivent des recherches afin de retrouver d'éventuels survivants et de localiser les personnes toujours portées disparues. Ce nouveau drame fluvial relance le débat sur la sécurité de la navigation sur le voie du Kwilu et de la RDC en général où les accidents d'embarcation continuent de faire de nombreuses victimes. Le bilan donné ici reste provisoire et pourrait évoluer au fur et à mesure de l'avancement des recherches. Parlons sécurité. Au Nord Kivu, la situation reste tendue ce lundi dans plusieurs villages du territoire de Walikale et de Masisi, sur le lendemain de l'affrontement ayant opposé tout au long du week-end les rebelles de l'AFC 1-23 aux coalitions Wazalendo alliés au FRDC. Selon des sources locales, de nombreux villages ont été désertés par leurs habitants. John Chibouaboua nous en dit plus.
Un calme relatif est signalé ce lundi dans le village de Yaki, situé entre Kachéber et Emiba, dans le groupement des Lubarike, territoire de Walikale. La localité a été toute la journée de dimanche le théâtre des violents combats entre la FC M23 et les combattants Wazalendo du groupe NDC rénové de Guidon Chimirai. D'après des notables locaux, des tirs ont été de nouveau entendus le même dimanche aux environs de 23h à Kasopo, sur l'axe Mahanga, dans le groupement de Banyungu, territoire voisin de Masi. Par ailleurs, des affrontements ont été signalés tout au long du week-end sur les axes Rubaya et Nyabiondo dans le même territoire. Les combats ont notamment concerné les villages d'Endete, Mulema et Luke dans les groupements de Nyamaboko 1, secteur de Osobanyungu ainsi que Kaseni et Mbinzo dans les groupements de Kibabi en chefferie de Baoundé à proximité du secteur de Katoi. Depuis plusieurs semaines, cette zone est le théâtre des violences armées récurrentes aggravant la crise humanitaire. Le nombre des villages abandonnés ne cessent d'augmenter, tandis que les activités scolaires et socio-économiques sont fortement perturbées.
La protection civile dans la région des Béni, toujours au nord, qui vous recommande au gouvernement de prendre très au sérieux la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone. Cette réaction intervient après une attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit de samedi dernier, attaque qui a fait au moins 19 morts en Gadi, ainsi que dans les entités agricoles de Wimba, situées à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville. Pour la protection civile, cette question mérite une attention urgente des autorités. Écoutez l'un des responsables, Jean-Paul Kapitula, au micro de Marc.
Depuis le 15 octobre 2014, la population de Gadi se souvient toujours du macabre massacre qui a été fait en Gadi où plus de 38 personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, la même plaie béante saigne de plus. Plus de 6 pygmées et autant de bantous qui sont tués du même bord opératoire au même endroit, ça fait vraiment la tristesse. C'est vraiment une recommandation que nous adressons à tous les niveaux. Au niveau du gouvernement central, de ne pas prendre la question du terrorisme qui est dans la zone de Beni, comme on dirait que ce sont des cambrioleurs qui entrent dans la maison. Ils doivent prendre au sérieux cette question. Parce qu'on ne sait pas s'il faut combien de personnes qui doivent mourir pour que cette question soit résolue complètement. Mais aussi la population, nous la supplions de continuer à envoyer les alertes en temps opportun. C'est le moment de nous unir, de nous poser la question qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qu'est-ce que nous devions faire et qu'ensemble nous puissions nous souder pour combattre cet ennemi commun.
Et de son côté, l'armée rassure quant à la protection des civils. Hier dimanche, les forces armées ont demandé à la population agricole de quitter toutes les zones de Wemba où des opérations de poursuite de l'ennemi sont en cours. À Ouvira et Fizi, dans le sud Kivu, les éléments de la police nationale congolaise affichent un nouveau visage. C'est grâce à une dotation récemment reçue du gouvernement. Ces policiers étaient devenus méconnaissables en raison de la vétusté de leur tenue. Déstabilisés par l'occupation de la ville de Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, nombre d'entre eux ne disposaient plus d'uniformes dignes de leur fonction. C'est dans ce contexte que l'inspection générale de la police nationale congolaise a procédé à une dotation en matériel et en équipement en médicaux. C'est afin de renforcer les capacités opérationnelles et améliorer les conditions de travail des agents. Jean Kassami nous en parle.
Cette dotation apporte un plus aux policiers dont la plupart avaient perdu le gros du matériel et de médicaments au plus fort moment de la guerre. Aujourd'hui, cette page est tournée avec la dotation le week-end dernier de nouveaux équipements en matériel et en médicaments. Docteur Serge Lutumba dirige l'hôpital de la police LSK.
L'hôpital a été vandalisé au mois de février de l'année passée. L'hôpital a été encore vandalisé pour la deuxième fois. Quand les M23 fouillaient Uvira, ils ont encore pillé tout ce qui nous avait été donné comme médicament dans une zone opérationnelle. Nous avons la capacité de tout faire pour le moment.
Dotation en médicaments, mais aussi en tenues et autres matériels de la police. Les bénéficiaires promettent l'amélioration de leurs prestations au service de la population civile.
Nous travaillons presque sans tenue, mais aujourd'hui nous avions eu une tenue complète, une équisseau, des bottes. Et pour cela, nous pensons que le travail peut se faire déjà dans de bonnes conditions. Ce que nous avions remarqué, il n'y a pas l'insigne de la police sur toutes les tenues qu'on nous a dotées. Il n'y a pas aussi les web.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Débat sur la révision ou le changement de la Constitution. La Voix des sans-voix pour les droits de l'homme appelle les acteurs politiques à privilégier l'apaisement. La VSV s'inquiète notamment des appels à des manifestations concurrentes annoncées aux mêmes dates par des camps politiques opposés. Elle estime que cette situation est susceptible d'alimenter des tensions et des affrontements. Dans une déclaration rendue publique hier dimanche à Kinshasa, l'ONG demande aux autorités d'assurer pleinement leurs responsabilités en garantissant la liberté de manifestation tout en assurant la protection des personnes et des biens. Suivez Rostam Anketa, directeur exécutif de la VSV, dans cet extrait recueilli par Grace Hamzati.
La Voix des sans-voix pour les droits de l'homme demande aux organisateurs des manifestations de respecter la liberté de chaque Congolaise ou de chaque Congolais à participer ou pas à une manifestation. En effet, nul ne peut être contraint ou forcé à prendre part à une manifestation sous divers prétextes que ce soit, et ce, conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux, internationaux des droits de l'homme. Tout compte fait, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme demande aux autorités congolaises à assurer la protection des manifestants, des biens privés et publics, tout en maintenant l'ordre public avec impartialité. La police doit agir avec impartialité sans se ranger derrière un camp quelconque. Aux organisateurs de manifestations d'adopter un discours responsable envers les militants ou autres sympathisants en évitant toute incitation à la violence.
Nous sommes dans la province du Maniema à présent. La Fondation Lukuru, en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, poursuit son combat pour la protection des perroquets et la lutte contre les trafics illicites de ces espèces totalement protégées. Hier, plus de 40 perroquets gris ont été relâchés dans leur habitat naturel. La cérémonie s'est tenue au Centre de conservation et de protection des perroquets de Dingui. Cela a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives locales, des partenaires techniques et financiers ainsi que de la population environnementale. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Cette cérémonie de relâchement a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des perroquets le 31 mai. À cette occasion, le ministre provincial de l'Environnement, Mutoro Tambwe Josué, a salué le travail accompli par la Fondation Lukuru et mis en garde les trafiquants de perroquets.
Ceux qui capturent les perroquets doivent savoir que les perroquets sont totalement protégés par les lois. Mais ces gens-là s'évertue à défier l'autorité de la loi en capturant les perroquets et en les commercialisant. C'est ainsi que nous leur lançons un message qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais en paix s'ils continuent à défier les lois de la République en capturant et en commercialisant les perroquets.
Pour sa part, la directrice de la Fondation Lukuru, Thérèse Hart, a rappelé que l'objectif de son organisation est de réduire de manière significative la capture de ces oiseaux.
Il y a un grand marché pour le perroquet gris à l'extérieur. Donc notre souhait, avec une diminution de la capture, il y aura une diminution des besoins pour une telle centre. Et ça, c'est notre souhait.
À ces jours, grâce aux actions de la Fondation Lukuru, plus de 400 perroquets saisis des mains de trafiquants ont déjà été relâchés dans la nature. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Sport. Lorsque le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 sera donné à Mexico, des milliards de téléspectateurs auront les yeux rivés sur les joueurs, mais une autre vedette sera déjà sur la pelouse au Trianda, le ballon officiel dévoilé par Adidas pour le plus grand rendez-vous du football mondial. Utilisé tout au long de la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Trianda ne se contente pas d'accompagner le jeu. Il marque une nouvelle étape dans l'évolution technologique du football. Sous son revêtement se cache un capteur de mouvement capable d'enregistrer en temps réel chaque contact, chaque passe et chaque trajectoire. Les données collectées sont directement transmises au système utilisé par les arbitres et les instances techniques de tournoi.
L'invité.
Il s'agit de Souvia Kisimba, directeur provincial du guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga, GUPEC. Dans un entretien avec Paulin Munanga, il explique le rôle et l'importance de ce service de l'État créé depuis 2022. Souvia Kisimba s'entretient donc avec Paulin Munanga.
Monsieur Souvia Kisimba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi un guichet unique juste pour la délivrance des permis de construire?
Nous sommes un guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC en sigle. Pourquoi nous sommes un guichet unique? C'est-à-dire toutes les opérations du début à la fin, du dépôt d'un dossier à l'octroi du permis de construire, ça se fait à l'interne du GUPEC. Donc le GUPEC ne dépend pas d'un autre service. C'est ainsi que même l'article 47 de l'arrêté portant mesure d'exécution du décret, donc l'arrêté 058, à son article 47, parle de ça.
Comment fonctionne le GUPEC? En d'autres termes, quelles sont les étapes à suivre par une personne pour l'obtention d'un permis de construire?
Nous voulons ici donc informer la population. Auparavant, GUPEC n'existait pas. Mais par des réformes voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est ainsi que GUPEC a été aussi institué, créé. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez construire, c'est venir avec votre dossier au GUPEC. Et cela, c'est l'article 13 de l'arrêté 058. Donc, le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et à l'article 20 du même arrêté, on parle de l'instruction du dossier. C'est-à-dire, l'instruction du dossier, le traitement du dossier, s'est fait au GUPEC. Pas ailleurs. Nous avons des techniciens qui vont faire la descente, qui vont faire leur PV, et nous allons faire la taxation. Et même la signature du permis, ça s'est fait au GUPEC. Et le contrôle, l'article 37, même arrêté, l'article 38, vous allez voir que dès qu'on vous donne, on vous octroie le permis, les copies doivent demeurer sur le chantier.
Pourquoi?
Parce que nos agents passeront pour le contrôle de ces permis.
Les permis de construire étaient octroyés depuis longtemps, avant même l'existence du GUPEC. Maintenant, quelle est l'importance de votre service?
Le GUPEC est venu donc combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi de permis. Vous allez voir, la plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis, parce que même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création de GUPEC, on a facilité les choses. Donc, venez à GUPEC, la République démocratique du Congo, les gouvernements a facilité les choses pour avoir ces permis.
Et maintenant, quel rapport entretenez-vous avec la division provinciale de l'urbanisme, vous en tant que GUPEC?
Le problème, selon les textes, il n'y a rien, mais il n'y a qu'un problème des personnes. La façon d'interpréter le texte, il n'y a que la rébellion, donc le refus d'accepter ce que dit le texte.
Qui refuse?
Il y a la division de l'urbanisme qui refuse la réforme. C'est ainsi que vous allez voir, ci et là, des déclarations à mettre la population à mal.
Actuellement, il y a une certaine confusion qui s'observe sur le terrain dans la délivrance du permis de construire. Des agents de la division de l'urbanisme aussi, nous apprenons qu'ils sont en train de délivrer ces permis-là. Comment est-ce que vous répondez?
Les agents de l'urbanisme qui continuent à octroyer, à traiter les dossiers de permis de construire, se mettent dans le faux. Tous ceux qui sont en train d'octroyer là-bas, ce sont des faux documents. Aujourd'hui, il n'y a que GUPEC qui peut octroyer le permis de construire. Et nous allons faire nos enquêtes.
Il y a certains agents de la division provinciale de l'urbanisme qui accusent GUPEC d'empiéter sur les attributions de ses services de l'État. Quelle est votre réaction?
Nous réceptionnons les dossiers de demande de permis de construire sur GUPEC. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non, parce que l'article 13 de l'arrêté 058 parle que le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et puis, je vous ai parlé ici des traitements du dossier, de l'article 20. Nous traitons les dossiers ici. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non. Je vous ai parlé aussi du contrôle. Je vous ai parlé de l'article 37. Et l'article 38, on peut ajouter même d'autres articles. Quand nous contrôlons ce que nous avons signé, est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Nous, nous signons le permis ici. Qui viendra contrôler que ça c'est un vrai permis ou bien ça c'est un faux permis? C'est un autre service. Quand nos agents descendent sur terrain, ce n'est pas pour aller contrôler les attributions de l'urbanisme, mais non, c'est pour contrôler le permis de construire.
Monsieur le directeur Souvien Kisimba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Souvien Kisimba, directeur provincial du guichet unique de délivrance des permis de conduire, de construire, pardon, dans le Haut-Katanga, GUPEC. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Kalan Irung et Lise Chikota ont préparé à la présentation Babel Pongo Massimango et Jean-Claude Tiala à la mise en onde. Bon après-midi.